Nous avons tous à l'intérieur de nous un petit vieillard qui tricote, hein.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous, le premier de la semaine, le NRV toujours en deux temps et à deux vitesses, dès 18h en avant-première si vous êtes podcasté, et 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. Première partie, l'actualité et la musique live, et puis la deuxième heure est consacrée aux archives extraordinaires de France Inter. L'actu ce soir, senior, j'adore. Augmentation de la durée de vie, allongement du temps de travail, les baby-boomers sont des nouveaux vieux et ils ne lâchent rien. Ils ont raison, ils sont aujourd'hui 700 millions à avoir plus de 60 ans dans le monde. Ils seront 2 milliards en 2050, c'est-à-dire 20% de la population. Et en France, en 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Jeudi dernier, Emmanuel Macron lançait sa consultation nationale sur la réforme des retraites. Mais au-delà de ce dossier, c'est toute la société qui doit réfléchir aujourd'hui à ce bouleversement démographique sans précédent. On en parle ce soir, sans tabou, avec nos invités, Benoît Lagane.
Oui, avec Marcel Amand, chanteur, acteur, auteur de documentaire « Pourquoi nous déteste-t-il, nous les vieux » qui est diffusé sur Planète Plus à partir de demain. Pascal Bruckner, romancier, philosophe, auteur de « Une brève éternité, philosophie de la longévité » qui vient de paraître chez Grasset. Julien Maury, journaliste et co-auteur de « Odyssée, un tour du monde de la vieillesse ». Oui. Paru au Seuil, et Marie Offray, rédactrice en chef de Notre Temps.
On va les retrouver dans quelques instants. On va partir aussi en live en cette fin de première heure. Marion Guilbault, et avec qui pour ouvrir la semaine?
Eh ben, on a tous regretté la disparition de Rachida, mais la pop orientale s'est trouvée une nouvelle voie. C'est celle de Mohamed Lamouri, qui sera en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole. Ce sera le NRV La Suite, France Inter, plus de Léonard de Vinci cette semaine, à l'occasion du 5e centenaire de la mort de l'artiste peintre, sculpteur, inventeur, scientifique, ingénieur. Soirée Sfumato ce soir sur France Inter. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Marcel Amand a tout fait, chanteur, comédien, aujourd'hui auteur d'un documentaire dans la série « Pourquoi nous déteste-t-il ? » Au départ de cette enquête que vous avez menée, Marcel Amand, qu'est-ce que vous vouliez démontrer par rapport au regard qu'on a aujourd'hui dans notre société sur les vieux ? C'était quoi le point de départ pour vous ?
Je ne me sentais pas le poids de démontrer quoi que ce soit, mais lorsque Alexandre Amiel m'a proposé de participer, de participer à cette série. Pourquoi nous déteste-t-il ? Il y a eu les Juifs, les Noirs, les homosexuels. Moi, je devais témoigner pour les vieux, puis il a dû penser que j'étais concerné au premier chef, ce en quoi il ne se trompait pas.
Non, c'est vrai que
pas,
90 ans, c'est ça ?
90 ans. Ouais. Je suis né, attendez, c'est très sérieux, je précise, parce que je suis né un 1er avril.
Ouais.
Mais 1929, quand même. Alors, comme ça me regardait quand même, j'étais un témoin direct, peu à peu, je suis devenu le fil rouge, en quelque sorte, je suis devenu l'animateur. Mais enfin, ce n'est pas moi qui ai établi les contacts avec les personnes qualifiées dans le domaine, celui de la gériatrie, et appelons les choses par leur vilain nom. Et peu à peu, je me suis trouvé prendre de l'importance, non pas comme metteur en scène, mais comme
témoin.
Voilà.
Spectateur.
De la bouche quand je trouve pas. Parce que pour un bavard, vous savez, c'est frustrant.
On va parler, bien entendu, de ce que vous avez mené comme enquête. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans tout ce que vous avez appris, Marcel Amand? Si vous deviez, comme ça, penser à une chose, ça serait quoi?
Eh bien, parmi les nombreux témoignages, j'ai vu un prof de faculté belge qui éduquait les infirmières spécifiquement, pour s'occuper de personnes âgées, spécialement.
Ouais.
C'est-à-dire, ma mère était aide-soignante, ça n'existait pas, ces distinguos-là. Là, il les a formés. Et c'est vrai que là, je me suis dit, tiens, on regarde quand même la chose sous un nouvel angle. C'est pas le pépé et la mamie d'autrefois. Il y a un comportement vis-à-vis des personnes qu'on a, dont on s'occupe, il y a un regard nouveau. Et il y a aussi cette Jacqueline, dont les propos m'ont quand même à la fois passionné et terrifié, qui a fixé la date, elle l'a fixé d'avance, la date
De son suicide. Et on en parlera tout à l'heure, on entendra un extrait de ce documentaire. Julia Maury, vous, votre old IC, le titre formidable, vraiment. Ce tour du monde de la vieillesse, le point de départ, c'était quoi pour vous ?
Eh ben, le point de départ de ce tour du monde de la vieillesse, c'était, comme beaucoup de gens de mon âge qui s'intéressent aux vieux, c'était nos grands-parents, en fait. On est deux à s'être lancés là-dedans, il y a donc moi-même et Clément Boxbel, et tous les deux, on a eu une expérience hyper positive de la vieillesse. On était très très proches de nos grands-parents, et qui étaient vraiment voilà des personnes libérées, très drôles, avec énormément d'humour, un petit peu comme vous, Marcel, toujours voilà une petite réplique.
À l'opposé de l'image qu'on pouvait donner.
Vraiment à l'opposé de l'image qu'on peut voir tous les jours dans les médias, à l'opposé de, on entend tout le temps parler des scandales en maison de retraite, des chiffres de la transition démographique qui sont quand même anxiogènes. Et on s'est dit, c'est quand même dingue, c'est des vrais personnages, ils pourraient être les héros de films, de romans, de documentaires ou de films, voilà. Et puis, on n'exploite pas ce potentiel, en fait. Et donc, on s'est dit, bon, ben, la transition démographique, c'est un phénomène global, donc ça, dans tous les pays.
Dans tous les pays, c'est une sorte de tour du monde, ouais.
Voilà, il y a la population vieillit, c'est un fait, mais comme tous les vieux ne sont pas traités partout de la même façon, eh ben, on va aller voir comment on les traite ailleurs et comment ils s'adaptent à cet enjeu qui est commun à tous les pays.
Pascal Bruckner, vous dites que cette longévité qui est au cœur de votre réflexion, vous dites que c'est une révolution dans notre conception des âges. Qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en premier lieu en avant dans cette réflexion, dans cette autobiographie intellectuelle avant autant que manifeste? Ça, c'est votre formule.
Ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'un nouvel âge est né entre la maturité et la vieillesse, que j'appelle l'été indien de la vie. Et c'est un âge où on n'est ni jeune ni vieux, on a encore un certain nombre de capacités physiques, mais on sent qu'on est poussé tout doucement vers la sortie par les institutions, par les mentalités, et que je situerais, disons, globalement entre 50 et 80 ans, puisqu'on a gagné entre 25 ou 35 ans d'espérance de vie par rapport à 1900. Vous savez, en 1661... Je suis tombé sur un livre d'histoire. Au moment du sacre de Louis XIV, l'espérance de vie était de 26 ans.
Exactement, ouais.
Et comme les gens mouraient très jeunes, les cimetières étaient au centre du village, qui voulait dire que la mort était au centre de la vie. Naître, c'était vraiment être promis à la tombe immédiatement. Quand on voit ce chiffre et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on constate les progrès absolument gigantesques qui ont été faits. Mais les progrès scientifiques et médicaux ont en quelque sorte été plus rapides que les mentalités. Et les mentalités continuent. Nous continuons à découper les âges de la vie comme autrefois. Enfance, jeunesse, maturité, vieillesse et mort. Alors que justement, ce nouvel âge qui est arrivé bouleverse beaucoup de choses dans notre rapport au travail, dans notre rapport au risque, dans notre rapport à l'amour. Et c'est ça que j'ai essayé de penser.
D'où, Marie Offray, vous qui travaillez à notre temps, comment ça, vous regardez ces trois façons de s'intéresser à la vieillesse au moment justement où on met en débat la réforme des retraites, et qui dit réforme des retraites dit ce fameux âge dont parle Pascal Bruckner à l'instant.
C'est un sujet évidemment que nous suivons de près, vous vous en doutez. Alors d'abord, c'est vrai que l'aventure de Julia, on l'a relayée chaque mois, hein, pendant quelques mois dans notre temps, à la fois sur le site et dans le magazine, donc on a suivi ça de très près, effectivement. Ça nous semblait intéressant de voir cette ouverture sur le monde. Évidemment, Pascal Bruckner, il l'a interviewé dans le numéro qui sort là actuellement. Et Marcel Amont...
Ce soir, en fait, le NRV, c'est un peu votre hors-série. Ça serait une sorte de hors-série radiophonique.
Mais c'est un petit peu ça.
Ben, c'est ça. Et Marcel Amont.
Et Marcel Amont, donc, il n'est pas encore dans le journal, en revanche, dont j'ai découvert... non, j'ai eu tout le loisir de vous dire tout à l'heure le bien que j'ai pensé de son documentaire. Son documentaire qui est vraiment plein d'humour, plein d'autodérision, et quand je dis plein d'humour, c'est souvent nos lecteurs le sont également. Mais c'est vrai que cette question du regard qui est posé sur les seniors, on a eu l'occasion de se pencher là-dessus l'année dernière, puisqu'on a fait un grand sondage sur ce thème. Et alors, on a quand même une très bonne nouvelle, c'est que 9 Français sur 10, dans notre sondage en tout cas, avaient une bonne image de leurs aînés. Donc ça, c'est comme la bonne nouvelle de la soirée. En revanche, c'est vrai, c'est exactement, Marcel, ce que vous disiez. Ils se sentent, les seniors eux-mêmes se sentent parfois déconsidérés, peu écoutés, dévalorisés également. Et ça, c'est vraiment, je dirais, des combats et des choses dont on parle dans le journal en premier lieu, bien sûr. C'est vraiment notre cœur de notre ADN, notre cœur de cible. Oui.
Pascal Bruckner, qu'est-ce que vous pensez justement du débat autour de la réforme aujourd'hui qui est proposée par Emmanuel Macron?
Ben, je pense qu'il est nécessaire. Alors, je ne sais pas ce qui va en sortir, mais ce qui est vrai,
crucial c'est... même d'ailleurs. Vous dites le débat autour de la réforme des retraites est crucial par rapport justement au fait de travailler ce qui opposerait les générations entre elles.
Oui, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que lorsqu'on licencie, enfin lorsqu'on met à la retraite des hommes ou des femmes de 60, 62 ans, c'est hormis pour les travaux pénibles. Alors là-dessus, je pense qu'il y a unanimité. Des gens qui sont en pleine possession de leurs moyens psychiques, qui ont une expérience et qui partent en quelque sorte la tête basse et retournent dans leur foyer avec le sentiment d'être devenus complètement inutiles. Et c'est curieux parce que Simone de Beauvoir le faisait déjà remarquer. En 1970, où elle disait qu'une femme de 50 ans, parce qu'à l'époque, 50 ans, c'était plus que ça n'est aujourd'hui, se sentait périmée, si elle n'avait pas la vocation d'être une grand-mère. Et pour elle, ça n'était pas une perspective très réjouissante. Et donc, on fait rentrer les gens dans un état de mort sociale, c'est-à-dire que la retraite qui était censée corriger les effets du vieillissement l'accentue. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que les jeunes générations, elles voient leurs parents ou leurs grands-parents rentrer dans un univers de loisirs et de consumérisme, faire des croisières, partir en vacances, s'amuser, alors qu'elles sont astreintes au travail. Et elles se disent, mais pourquoi on continuerait à travailler pour des gens qui ne font rien? Et je pense que sur la base du volontariat, on pourrait effectivement imaginer des formules où on remettrait les seniors au boulot, au labeur, avec des aménagements possibles. Mais je pense que sortir toute une classe d'âge brutalement de la société, c'est aussi l'isoler. Et ça, c'est tout à fait dangereux.
Marie, alors, c'est vrai que là, je rejoins pas tout à fait Pascal Bruckner, parce que je trouve que ce n'est pas parce qu'on est à la retraite et hors du travail qu'on est inactif. Et on le voit bien. Alors, d'abord, on parle des seniors, mais les seniors, il y a autant de seniors que d'hommes et de femmes, finalement. Hein. Derrière chaque senior, il y a une existence individuelle. Donc, c'est difficile quand même de généraliser. Mais enfin, dire que les seniors se sentent inutiles parce qu'ils ont quitté le travail, moi, je suis pas du tout d'accord. On le voit d'ailleurs, ils tissent le tissu associatif. Ils sont à la tête des communes, dans les conseils municipaux, à la tête des municipalités. Ils s'occupent de leurs petits-enfants. Ils s'occupent également de leurs parents vieillissants. Ils produisent une vraie richesse. Ce n'est pas parce qu'ils sont en dehors du travail qu'ils ne sont pas actifs. Ça, je pense que c'est vraiment, enfin moi, c'est vraiment quelque chose que je tiens, auquel je crois. Voilà.
Marcel Lamont, vous avez été à la retraite, vous ? Quand on est chanteur, c'est autre chose, la retraite.
Oui, c'est autre chose, je pense. Je pense que c'est autre chose, quand même, parce que on transpose. C'est plutôt, moi je me suis pas senti, sauf ce que je viens de dire, pour d'autres raisons, je me suis pas senti rejeté. C'est plutôt que, voilà, on se sent ringardisé. C'est très particulier aux artistes, je crois. On se sent ringardisé. On n'est plus dans le coup. Oui, oui, Pépé. Alors, il avait bien mangé sa petite bouillie. Il était content, hein, moi.
Oui, c'est vrai qu'on vous parle toujours à la troisième personne.
On nous infantilise.
Dans certains établissements.
Oui, alors, on nous infantilise. On se croit tenu d'infantiliser, par gentillesse, d'infantiliser les vieux. Alors que finalement, dans bien des domaines, et particulièrement artistiques, on est ringardisé et non pas méprisé.
Julien Maury, vous, dans votre parcours autour du monde, est-ce que vous avez eu l'impression que la question des retraites était envisagée de façon totalement différente en fonction des pays? Et est-ce que le cas français est un cas particulier, cette façon de penser la retraite telle qu'elle est réfléchie en ce moment avec cette réforme?
Ben, c'est vrai que la retraite, ça représente en France un peu le passage, enfin le retrait de la société en fait, c'est un mot un peu transparent.
Le mot est fort quand même, retrait.
Mot est fort et c'est vrai que l'exemple qu'on donne dans le livre, c'est bon, bah, l'exemple espagnol, Rubilación, qui est la joie, quoi. Donc c'est quand même un mot qui donne envie d'y être. Et donc c'est vrai que nous, dans notre parcours, on a vu des personnes qui profitent de leur retraite pour commencer une autre vie. Et c'est pas uniquement du loisir, c'est pas uniquement de l'oisiveté. C'est s'engager. Alors ça peut être s'engager pour le monde de demain. Ça peut être s'engager pour les générations futures. Par exemple, quand on était en Belgique, on a rencontré des retraités qui mettaient à profit toutes les compétences qu'ils ont acquises pendant leur vie professionnelle pour aider des jeunes issus de l'immigration à sortir d'un chômage de longue durée. Et donc pendant 6 mois, ils se retrouvaient toutes les semaines et ils les aidaient à passer des entretiens fictifs, à trouver des offres d'emploi. Et les chiffres étaient vraiment saisissants.
Mais la retraite, le système de retraite n'existe pas dans tous les pays de toute façon.
Alors le système de retraite n'existe pas dans tous les pays. Moi je trouve ça important, comme dit Pascal, de pouvoir continuer de travailler si on a envie. On a rencontré des personnes âgées qui n'avaient pas envie de lâcher leur boulot parce que pour eux, c'était toute leur vie. Mais on a aussi rencontré dans le sud de l'Inde, par exemple, ça nous a vraiment marqué, des groupes autonomes d'entraide, donc des vieux qui s'étaient regroupés pour pouvoir mettre en commun leurs toutes petites économies et créer un petit business parce qu'ils étaient dans une situation de grand dénuement. Donc la retraite là-bas en Inde, elle est de 13 euros par mois, la retraite universelle, pour les personnes qui ont travaillé dans le secteur informel, qui représente 90% de la population quand même. Donc 90% des personnes âgées là-bas ne touchent que 13 euros par mois et donc sont quand même obligées de travailler pour survivre en fait.
Toujours énervés, les seigneurs du rock and des Pixies poursuivent leur route avec un nouvel album, extrait. Call me devil, call me friend, but call me blackjack. Came all the way from Aberdeen to live among the go-betweens. Let me tell you about Catfish Kate in the time before when she's just Kate. Here in the mountains all alone before the time we call this home. Where is my angel falling? Put inside a favorite dish. A catfish grabbed her by the head and took her to his house instead. Where is my all the day and night, the morning show, the bloody sight. Kate all dressed in catfish clothes, his whiskers for her catfish robe, whiskers for her robe. Kate, nouveau Pixies sur France Inter. Ils seront en concert près de chez vous avec un Olympia à Paris le 19 octobre prochain.
Qu'est-ce que l'âgisme ?
Le nouveau rendez-vous ?
Parce que, en effet, la vieille dame est un peu plus lente à sortir sa monnaie. Des gens qui font des remarques du type « Mais vous aviez toute la journée pour les faire, vos courses. »
Laurent Goumard.
Le problème, c'est qu'on va vite du stéréotype un peu marrant à quelque chose qui va ensuite justifier des formes de mépris ou d'exclusion. Exemple, puisque les vieux sont conservateurs, il faudrait les empêcher de voter après un certain âge. Le cliché, tous les vieux conduisent mal, tous les vieux sont dangereux. À partir du moment où on a ce stéréotype-là, on en arrive à la conclusion que donc, il faut les empêcher de conduire.
Sur France Inter.
les empêcher de conduire, les empêcher de baiser, beaucoup de choses quand même pour les vieux. Pourquoi déteste-t-on les vieux? C'est la question que pose le film de Marcel Amont, qui sera diffusé à partir de demain sur Planète Plus. Pour en parler, pour parler de ce statut des seniors, à vos côtés, Marcel Amont, il y a la rédactrice en chef de Notre Temps, Marie Auffray, le philosophe Pascal Bruckner et la Globetrotters, Julia Moury. Par rapport justement à tous ces clichés qu'il va falloir démonter, il y en a un qui est assez intéressant. Pascal Bruckner, vous rappelez que selon The Economist, c'est à 70 ans que l'on se sentirait le plus heureux. C'est votre cas?
Non, faut pas pousser quand même.
Hein. Ah bah voilà.
Faut pas pousser.
Bah,
c'est-à-dire que si on attend,
étrange, ouais. si on attend 70 ans pour être heureux,
oui, la vie aura quand même passé dans la souffrance et les ténèbres. Donc, on peut être heureux évidemment à 70 ans, à 80, et même à 90. Marcel Amont en est la preuve. Mais je crois pas qu'il y ait une qualité de bonheur particulière. Sans doute, on atteint une certaine sérénité. On a un point de vue peut-être plus distancié sur les choses, mais les passions humaines à 70 ans sont aussi fortes qu'à 60, à 50 ou à 40. Et c'est ça qui est très curieux. Moi, je prends souvent le bus, même tous les jours, et je vois les dames et les messieurs sur les lignes de Paris, lorsqu'ils se disputent, ils ont des arguments de charretier. Et je me dis, mais où est la sérénité de la vieillesse? Où est la sagesse des ancêtres? Mais pas du tout. Donc, il faut le savoir, on n'est pas plus heureux, on n'est pas plus sage. Simplement, on a moins de moyens d'influer sur la société. Mais, comme vous l'avez dit en préambule, puisque les seniors vont être majoritaires en 2030 ou 2050, ils seront une force politique et économique et par conséquent, ils jouiront de plus de considération. Il suffit d'attendre 30 ans et nous voilà les maîtres du monde.
Et pour autant, dans le film de Marcel Amont, un de vos témoins vous explique à quel point on est plus heureux jeune et ancien. Il parle du sourire, en fait, de la courbe. Si on examine la courbe, on est heureux jeune, on est heureux âgé et c'est finalement entre les deux qu'on serait le moins heureux.
Écoutez, depuis les Romains, on sait que Carpe Diem profite du jour. Quel qu'il soit, Pascal Bruckner dit qu'à 70 ans, moi, la plus belle période de ma longue vie, c'est entre 40 et 60 ans. Mais il faut s'accommoder avec le mieux possible de la suite, de ce qui vient, du bateau qui prend l'eau, des brèches à colmater, des joies nouvelles, des joies différentes qui se présentent à vous. Je crois que c'est l'art d'accommoder les règles.
j'ai vu la phrase se prononcer en effet, Marcel Amont.
Carpe diem, c'est de se contenter de ce qu'est le jour d'aujourd'hui, comme on dit dans le midi.
Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Il y a une rencontre qui vous a surpris, Marcel Amont, c'est celle de Jacqueline Jeanquel, qui a été très médiatisée, puisqu'elle avait annoncé sur Internet, j'avais vu ça aussi sur Internet, qu'elle souhaitait programmer sa mort pour 2020 par suicide assisté en Suisse. On l'écoute.
Je suis Jacqueline Jeanquel, je vais avoir 75 ans au mois d'octobre. J'ai fait le plan de partir, de ne plus vivre à partir de janvier 2020. Je sais qu'après 75 ans, petit à petit, je vais me déglinguer de plus en plus. La vieillesse en elle-même est une maladie incurable. Donc je me dis, j'habite le maximum de temps que je peux à Paris. Et quand ça ne marche plus, je vais aller mourir en Suisse et puis c'est tout.
C'est quoi être vieux pour vous?
C'est chiant.
Moi, je prétends que vous ne l'êtes pas, vous vous ressentez comme tel. Alors, c'est quoi une vieille femme pour vous?
Qui n'est plus baisable. On ne dégage plus, vous savez, les phéromones, le truc qui fait qu'on est sexuellement attirant pour l'autre sexe. Maintenant, vous allez me dire, on peut très bien vivre sans être attirant pour l'autre sexe, etc.
Oui, je vais vous le dire.
Ben non. Moi, c'est ça qui me plaisait dans la vie. L'amour, l'éros, les sensations, les machins, tout ça, en vieillissant, c'est fini. Petit à petit, toutes nos fonctions se déglinguent.
Vous ne connaissez aucun vieux qui vous donne envie de vieillir encore un tout petit peu plus? Vous fuyez les gens de votre âge?
J'ai une sorte de gérontophobie. Moi, j'aimais la vie quand c'était vraiment la vie. J'aimais l'amour, j'aimais monter à cheval, j'aime le parapente, j'aime être sur un scoot, et j'ai pas envie de marcher lentement.
Marie Auffray, comment vous regardez ce témoignage?
C'est dur. C'est dur, je le regarde avec une grande tristesse parce que c'est vrai que quand on voit Marcel Hamon qui vient la voir et qui se dit c'est sûr, je vais réussir à lui donner des raisons de vivre, des raisons d'exister, et puis vous tombez face à un mur, face à quelqu'un qui n'a clairement plus envie de vivre. Moi, je peux pas porter un jugement là-dessus, moi. Simplement, non, elle, quand elle dit que à 75 ans on ne peut plus avoir d'histoire d'amour, moi j'en connais plein. Je connais plein de gens qui ont rencontré l'amour à 70. Pour avoir lu le livre de Pascal Bruckner, je sais qu'il raconte également une histoire. Hein, vous parlez de votre père qui est tombé amoureux. Enfin, c'est une très jolie histoire que vous racontez. Je préférerais que ce soit vous qui le fassiez, mais une histoire d'amour vraiment. Et donc je trouve que c'est dommage de pas y croire.
Pascal Bruckner, c'est une histoire d'amour ou une histoire de sexe aussi? Parce qu'une histoire d'amour...
Je pense que c'est plutôt une histoire d'amour, mais je ne suis pas...
Ouais, c'est quand même pas la même chose.
Vous m'expliquerez la différence.
Ah, vous voulez vraiment que je vous l'explique?
Oui.
Disons Marcel. Que c'est, le mot amour en français inclut tous les domaines, oui. C'est ça. Mais c'est vrai, on voit des personnes de 80 ou plus qui retombent amoureuses. Il y a eu cet exemple très beau qui a été donné récemment à la télévision de ce GI qui est arrivé à Omaha Beach de 91 ans, magnifique. Qui a retrouvé une jeune Française dont il était tombé amoureux en 44. Il ne pouvait pas consommer, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit, parce qu'il était marié. Et là, ils se sont retrouvés, ils sont libres tous les deux, très malades, mais manifestement ils vont se revoir. Donc je pense que le cœur continue à battre. Il est vrai que si le désir s'est arrêté sur l'appétit exclusif pour la jeunesse, on est très malheureux. Ça, c'est certain. Et donc, il faut aussi savoir accommoder ses appétits.
Oui, c'est ça. Changer de point de vue, de voilà, statut. Voilà, c'est ça. Voilà. Si on reste fixé sur ce que l'on a vécu, c'est difficile.
Et puis, cette femme parle de gérontophobie. Faut oublier qu'il y a aussi une gérontophilie. Dans les classes d'âge plus jeunes,
tout est bien
il y a
fait.
Des gens qui aiment les gens plus âgés, il y a des gens jeunes qui aiment les gens plus âgés, mais encore une fois, renoncer au désir à tout âge, et renoncer à la vie, c'est pas simplement la libido, c'est l'appétit de se lever chaque matin en se disant la journée qui vient sera peut-être extraordinaire.
Voilà. Moi j'ai le privilège, puisque je suis académicien Alphonse Allais, le vrai. Notre doyen, c'est René de Obalia.
Qui a 100 ans.
Grammairien et
quelle merveille, ouais. Cet homme. Pourquoi s'il avait fixé la date de son départ avant décrépitude à 80 ans? Il se serait privé, il nous aurait privé de bonne humeur, de bonne santé, d'intelligence. Je comprends pas. Effectivement, je comprends pas.
Alors, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas aussi dans le reportage de Marcel Hamon. Ce sont les couvertures de Notre Temps. J'imagine que vous avez regardé ça, Marie Auffray.
Oui.
C'est-à-dire que donc Notre Temps s'adresse aux seniors et les gens qui sont sur la couverture ont généralement une cinquantaine d'années, très avenantes.
Une petite cinquantaine. Ce sont des femmes d'une petite cinquantaine d'années. Ouais.
Pour quelle raison une femme de 70 ans n'aurait pas droit à une couverture?
Alors, Laurent, si je vous demande quel âge vous avez dans votre tête, vous allez me répondre.
25 ans.
Voilà. Donc, comment voulez-vous vous reconnaître dans une image qui n'est pas celle dans laquelle vous vous projetez? Donc, c'est ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas les dames de 70 ans,
bien
pas
sûr,
du tout.
J'imagine bien.
Mais voilà, il se trouve que voilà, je peux pas vous faire une autre réponse. On est attiré par notre image et notre âge psychologique qui ne correspond plus du tout à notre âge biologique. Voilà.
Vous avez un âge psychologique, Pascal Bruckner? Dans votre tête, vous avez quel âge?
Dans ma tête, j'ai tous les âges de la vie précédente.
Vous êtes un sage.
Non, je suis pas un sage, mais c'est vrai que ce qui est frappant quand on atteint la cinquantaine, c'est de constater à quel point la jeunesse reste proche. On se croit encore jeune, mais les autres vous renvoient à votre âge biologique. C'est eux qui vous disent, attends, à ton âge, tu vas quand même pas te conduire comme ça. Et là, je pense que l'été indien de la vie, c'est une tension permanente entre la manière dont nous nous voyons, c'est-à-dire un éternel jeune homme ou une éternelle jeune femme, et l'attitude, la relative sagesse à laquelle notre âge nous contraint. Et la tension entre les... Nous vivons dans une schizophrénie qui n'atteint pas les générations précédentes. Parce qu'avant, on a le droit finalement de manifester ses appétits, ses envies, une certaine pétulance. Mais là, on est contraint quand même à dire on devient des êtres divisés.
La nuit de pleine lune de ton heure de gloire. La bonne malchance, c'est le court-circuit de ton indifférence, du soleil de minuit. Mais cette fois, c'est la dernière fois qu'elle vient à ma fenêtre, ivre et inopportune. Cette fois, elle porte à bout le bras un bout de toi, peut-être, vêtue d'un beau costume. Mauvaise fortune est un chien de garde, mais je n'en vois aucune quand je te regarde. Elle allume les phares de ses nuits d'hiver, de ton cœur noir, de tes yeux clairs. Mais cette fois, c'est la dernière. Avec toi qu'elle danse quand la vie est sombre.
La mauvaise fortune signée Kerenan, c'est la nouvelle chanson issue de son dernier album Bleu, la programmation colorée ce soir de Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous.
J'ai 62 ans. Je devrais être senior, mais je me sens pas complètement concernée pour l'instant. Parce que je viens juste d'arrêter de travailler et j'ai tellement d'énergie que je recherche un emploi.
Bientôt 66. Je ne suis pas senior parce que j'ai des enfants de 15 ans et 17 ans.
J'ai 60 ans. Je pense que je me considérerais senior à partir de 75 ans parce que mon corps aura du mal à suivre.
60. Senior ? Non. J'ai encore des activités qui sont assez physiques.
60 ans. Je réalise pas trop en fait. Je me sens moi-même, mais je réfléchis pas à senior ou pas senior. Je suis à la retraite depuis 3 jours.
Ça veut tout et rien dire, senior. T'as peut-être 70 ans, je verrai.
Partir à la retraite, c'est devenir senior ?
Non, pas forcément. C'est être libre.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
C'est être libre, c'est vraiment génial comme réponse. Comment ça va les vieux? Jamais âgé, toujours jeune? Oui, c'est le sujet du Énervé ce soir. On en parle avec nos invités Marcel Amont, Marie Offray, Pascal Bruckner et Julia Moury. Pascal Bruckner, le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde veut rester jeune. Les trottinettes, on fait de la trottinette à 50 ans. C'est ça le problème véritablement. Si la vieillesse fait peur, c'est qu'on veut rester éternellement jeune, quel que soit l'âge.
Oui, parce que c'est la jeunesse qui est vue, à tort ou à raison, je ne me prononce pas comme étant l'âge par excellence, l'âge de tous les possibles, de l'énergie, de l'intelligence. Et c'est vrai que la vieillesse, malgré tout, a une connotation négative, comme le rappelait tout à l'heure Marcel Amont, dans toutes les sociétés, et depuis toujours, depuis au moins 2 siècles, nous voyons la vieillesse de façon un peu sinistre. Et on voit des grands-mères qui apportent leurs petits-enfants en trottinette à l'école. On voit des gens assez âgés qui font du gyro-rousse, qui, à mon avis, est très dangereux lorsqu'ils ne portent pas de casque.
Faut qu'ils arrêtent, là. Oui.
Et donc, il y a un fossé entre la manière dont nous nous voyons et la manière dont l'État civil nous désigne. Et le meilleur exemple de cela, c'est ce Hollandais qui, il y a l'année dernière, de 69 ans, qui a porté plainte contre l'État de son pays parce qu'il estime qu'il a le corps et l'âme d'un homme de 49 ans et que lorsqu'il va sur Tinder pour trouver une partenaire, lorsqu'il cherche un travail, on lui dit « t'es trop vieux ». Tu es remisé à la case des objets cassés et donc il ne supporte pas ça. Il dit c'est honteux, on est en train de me voler 20 ans de ma vie. Et je pense que nous sommes entrés dans l'ère des générations liquides et donc chacun voudrait pouvoir fixer arbitrairement sa date de naissance et donc son âge actuel. Et je connais personnellement des gens jeunes qui ont moins de 40 ans et qui déjà trichent sur leur âge insensiblement. Ils s'enlèvent 2-3 ans juste pour avoir l'air. Ils trichent aussi sur l'âge de leurs enfants pour avoir l'air évidemment plus jeune.
Je te présente mon enfant, il n'est pas né, par exemple. Vous savez quel âge, Laurent?
Le vieillissement hante une société qui est une société de jeunisme.
Vous, quelle question votre fils vous a posé? 37 ans, mais il a, c'est ça, Marcel Hanon?
Je voudrais faire une parenthèse pour répondre directement à Pascal Bruckner.
Je vous en prie.
Il n'y a pas si longtemps dans ma jeunesse, en tout cas, on vivait à 3 générations sous le même toit et on apprenait à se frotter les uns aux autres, à se connaître. Il y avait donc des angles qui étaient beaucoup moins aigus qu'aujourd'hui. Souvent on se surprend à jouer le rôle qui correspond à ce qu'on en dit. Voilà. Je vais être plus clair parce que là c'est un peu embrouillé. Bon, j'ai un plus jeune fils qui a 37 ans, j'ai 53 ans de plus que lui, donc on vient d'écrire un livre à quatre mains qui s'appelle Dans les coulisses de ma vie, 90 ans pour apprendre à vivre. Eh bien très souvent, c'est vrai, on écrivait à 90. Ouais. Alors j'écrivais souvent des trucs et il posait son regard critique et aimant. Et bien très souvent, il me surprenait à dire des choses qui demandaient à être rectifiées par un regard neuf, pas complaisant, neuf.
Neuf, ouais. Voilà. Ouais, je comprends bien. Ouais.
Et donc de temps en temps, on jouerait un petit peu le rôle de collabo de l'âge pour faire comme il serait séant d'être vu. C'est pas trop embrouillé, non, ce que je vais
dire. Pas du tout.
Vous faites ça pour me faire plaisir.
Mais vous êtes vraiment un comédien, Marcel Hanon. Alors, l'arrivée des générations nombreuses du baby-boom dans le grand âge à partir de 2030 va changer la donne. Pour la première fois, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans, donc en France en 2030. Les 80 ans et plus vont voir leur nombre exploser. On va passer de 4-8 millions en 2050, donc il va falloir se préparer, Benoît Lagane.
Oui, Julien Moury, vous écrivez qu'aux États-Unis et au Japon, où la transition démographique est bien amorcée, ils sont très avancés en matière d'innovation pour personnes âgées, par exemple, pour préparer justement ce temps qui va être global dans quelques temps.
Alors, c'est surtout au Japon où ça nous a marqué la façon dont on s'occupe des personnes âgées, très très âgées, on va dire. On a vu qu'il y avait vraiment toute une, enfin qu'on s'occupait de la personne à toutes les étapes de sa vieillesse en fait. Alors qu'en France, c'est quand même encore assez cloisonné. On vieillit chez soi. Un jour, on peut plus rester chez soi. On va en maison de retraite. Au Japon, c'est vrai que le modèle est fait de telle sorte à s'adapter aux besoins de la personne. Donc, la personne, elle a besoin d'une aide à domicile et puis ensuite, elle a besoin d'aller quelques jours dans une institution, mais elle peut quand même revenir chez elle. Et puis, un jour, elle y va, mais tout est vraiment très flexible. Et aussi, ce qui nous a beaucoup impressionné au Japon, c'est que il existe des petites structures. Donc, on peut pas vraiment appeler ça des EHPAD, mais c'est des lieux de vie où les personnes âgées dépendantes vivent, mais c'est des toutes petites structures et c'est un modèle généralisé par l'État où qui sont ouvertes à la communauté. Donc il y a par exemple au sein de cette petite structure un super restaurant ou un bain chaud parce que les Japonais adorent les onsen, ils adorent aller dans les bains chauds naturels et donc ces petites structures elles sont ouvertes à la communauté. Et tous les jours, il y a les voisins, des gens qui viennent juste boire un café, alors que leurs parents ne sont pas là du tout. Enfin, donc.
Ouais. Il y a vraiment un changement de paradigme. Marie Offray, dans vos reportages, est-ce que vous avez noté des expériences innovantes, originales, qui nous préparaient à ce bouleversement démographique?
D'abord, il faut dire que finir ses jours en EHPAD, c'est pas du tout une fatalité. Aujourd'hui, il y a simplement 10% des 75 et plus qui sont en EHPAD et uniquement un tiers des 90 et plus. Et on sait que de plus en plus, les gens souhaitent rester vraiment à domicile. Donc parmi les expériences, il y en a beaucoup. Il y a ce qu'on appelle l'EHPAD à domicile. Donc l'EHPAD à domicile, c'est vraiment toutes les structures de l'EHPAD qui sont qui peuvent être amenés chez les gens et puis donc avec une infirmière, avec des soins, etc., qui permettent de rester le plus longtemps possible chez soi, parce que ce que veulent le plus les personnes âgées, notamment celles qui sont évidemment en perte d'autonomie, c'est rester chez soi dans leur environnement familier.
Mais ce que l'on entend par là, c'est qu'au final, vous donniez un chiffre, 10% des personnes qui vont en EHPAD, c'est qu'au fond, la vieillesse n'est pas à être condamnée
EHPAD,
Pascal Brugner.
Ah ben non, heureusement. Et d'autant moins que l'espérance de vie s'allonge.
Voilà, c'est ça.
Donc, on trouve des centenaires en pleine santé. Tout à l'heure, Marcel Amont parlait de René de Obaldia. Regardez, comment il s'appelle
Pascal, j'ai oublié de dire qu'il avait 101 ans. Je crois que j'ai oublié de le dire.
Edgar Morin, 98 ans, il est en pleine capacité physique et intellectuelle. Mais ça a posé des problèmes énormes. Parce que,
quel type de problème,
hein? Eh ben, par exemple, mais je crois que tout à l'heure vous en parliez avec justesse, si les centenaires deviennent très nombreux, c'est donc les octogénaires qui devront payer des soins pour les EHPAD ou pour les maisons de retraite. Imaginez un homme de 70 ans qui décide d'avoir un enfant au même moment où son aîné a lui-même un enfant. Cela voudrait donc dire que si son aîné a un enfant juste après la naissance du dernier fils de son père, ça voudrait dire que les neveux seront plus jeunes que les oncles ou tantes.
Vous m'avez complètement perdu, mais je comprends l'histoire.
Voilà, vous comprenez l'histoire.
Donc, il y a même un bouleversement.
Il y a un bouleversement temporel. Les chronologies s'enchevêtrent. Et déjà, on voit ça avec les familles recomposées, puisque nous sommes beaucoup à vivre dans des familles recomposées de plusieurs générations. D'abord, on oublie les noms les uns et des autres. Il n'y a pas forcément une bonne entente. Mais là, tout d'un coup, on a une profondeur temporelle qui est étourdissante, et donc ça a posé toutes sortes de problèmes, à la fois peut-être tragiques, mais en tout cas aussi assez cocasses d'une certaine façon. Mais l'essentiel, c'est que les gens restent en état d'autonomie intellectuelle et physique, et je pense que la vieillesse, pour moi en tout cas, c'est l'âge philosophique par excellence. C'est-à-dire, c'est le moment à partir de 50 ans où on se pose les grandes questions de la vie. Comme est-il permis d'espérer? À quoi dois-je renoncer? À quelle sorte de désir puis-je donner libre cours? Et pour moi, rien n'est plus émouvant que de voir un homme ou une femme qui ont passé 60 ou 70 ans plonger dans la lecture d'un livre en prenant des notes. Et je me dis, voilà, le secret de leur jeunesse, c'est qu'ils sont redevenus des étudiants. Il faut redevenir un enfant pour vieillir heureux.
Je voudrais poser une question perfide. Non.
Perfide, oui.
Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire d'atterrir dans un EHPAD? Est-ce que...
Ah ben, faut demander.
Parce que, est-ce qu'on est pleinement heureux? Pas, on est mieux en principe, on est mieux chez soi. Mais est-ce donc si terrible d'atterrir dans une maison de retraite?
C'est une question pour moi. Évidemment, ces dernières années, ces derniers mois, on a entendu des choses assez terribles. Évidemment, on entend souvent parler des choses quand elles vont pas bien. Ah. Mais la grande majorité du temps, il y a des gens qui sont extrêmement professionnels, qui font très bien leur travail dans des structures publiques, privées, associatives, et où il n'y a absolument aucun risque, bien évidemment, à laisser ses parents dans de tels établissements, bien évidemment. Mais vous savez, c'est toujours pareil. On parle des choses quand elles vont très mal, et les images qu'on a vues sont effectivement extrêmement choquantes. C'est vrai aussi que cette crise a eu le côté positif, c'est que il y a eu des moyens qui ont quand même été un petit peu plus donnés aux EHPAD, et on a pu entendre les soignants aussi, et ce gros malaise des soignants qu'on a pu entendre, et on espère qu'il va y avoir de nouveau des moyens, des mesures qui vont être faites pour que ça se passe mieux, évidemment.
Pascal Bruckner, dans votre livre, vous écrivez que les États-Unis ont une approche particulière qui proposerait à chaque génération un nouveau contrat social. Le credo, ce serait le recommencement éternel. Mais est-ce que cela vient changer quelque chose dans le rapport des Américains au vieillissement?
Non, puisque l'Amérique est le pays où, beaucoup plus que l'Europe, les générations qui vieillissent sont mises vraiment de côté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, comme c'est un pays libéral, fondé sur l'individualisme, on exile les vieux, on les met par exemple dans des gated communities, qui sont des ghettos pour vieillards, fermés avec des gardes où les enfants et les générations plus jeunes sont interdites d'accès, sauf si c'est les gens de la famille. Et ça, pour moi, c'est l'horreur absolue, parce qu'il me semble que l'un des indices d'une société réussie, c'est précisément une conversation permanente entre les plus petits et les plus âgés. Puisqu'il y a, chaque génération est une nation en elle-même, c'est un monde clos. Et s'il n'y a pas d'échange possible entre tous les âges, cela veut dire qu'on est prisonnier en quelque sorte de sa date de naissance. Ce qui est une condamnation à mort d'une certaine façon.
Mais j'imagine qu'en 68, vous pensiez que les vieux étaient des vieux cons, Pascal Bruckner.
Mais absolument. Jusqu'à ce que j'en devienne un moi-même. Mais oui. Oui. Non, bien sûr. Puisque mai 68, c'est fait au nom d'un slogan qu'on oublie. Ne faites jamais confiance à quelqu'un de plus de 30 ans. Quand j'ai passé la trentaine, j'ai eu un moment de terreur parce que je me suis dit qu'est-ce qui va se passer. Mais donc nous sommes obligés de réinventer chaque année notre propre existence et notre propre conception des âges de la vie. Mais c'est vrai que cette vision 68arde était un peu stupide.
En remontant encore plus loin que les 68ards, Socrate disait aussi jeunesse
très
est mal élevée, se moque de l'autorité, n'a pas de respect pour les anciens. Donc vous voyez, c'est pas
oui, c'est déjà dans Platon, voilà. Il y a dans la République, ouais, oui.
Tout à fait.
Et voilà, on finit sur une note philosophique. Ben c'est voilà. Parfait pour tous.
Sur une note maïotique.
On va finir sur une note musicale, parce qu'on va partir tout de suite en live avec Marion Guilbeault. All right, let's
have a little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Et Marion, ce soir, vous avez programmé Marcel Amon, puisque c'est notre invité.
Bah, on pourrait.
Vous devez.
Écoutez, vous êtes le bienvenu. Allez, on va prendre date après l'émission.
C'est son côté Michel Drucker.
Voilà,
vous savez.
C'est ça. Non, moi, j'ai une histoire assez dingue à vous raconter aujourd'hui. C'est une histoire qui commence sur la ligne 2 du métro parisien, avec la voix déchirante de Mohamed Lamouri. Alors, Mohamed Lamouri, c'est un jeune chanteur algérien. Il est originaire de Tlemcen. Il est arrivé à Paris en 2003. Et jusqu'à peu, il se produisait dans les wagons du métro avec son petit Casio sur l'épaule. Alors moi j'ai eu l'occasion d'assister à quelques-unes de ses sérénades et je me rappelle de ces reprises incroyables d'Hotel California et de Billie Jean qui nous laissaient, nous les passagers, tout chose. C'est joli, ouais, hein, c'est joli. C'était magnifique. Moi, il m'a charmé vraiment pendant plusieurs voyages comme ça. Alors, Mohamed Lamouri a joué près de 15 ans, 5 heures par jour, 6 jours par semaine, entre Porte Dauphine et Nation pour gagner sa vie. Et puis, les choses vont basculer pour lui à l'été 2013, quand les têtes chercheuses de La Souterraine, ce super site de découverte musicale dont je vous ai déjà dit le plus grand bien, vont l'aborder, le convaincre et l'aider à articuler sa musique. Parce que dans son répertoire, il y avait des reprises de Cheb Hasni, c'est le crooner du rail, puis il y avait aussi ses propres compositions. Alors, ils ont fait quoi, La Souterraine? Ils ont trouvé un super groupe, c'est le groupe qui l'accompagne ce soir, le groupe Mosla. Et ensemble, ils ont imaginé un nouveau son entre raï, reggae et musique arabo-andalouse. Tout ça, ça a créé un folklore à l'image de cette fameuse ligne 2, urbain, souterrain, aérien, cosmopolite, populaire, unique. Et ce soir, c'est un tout nouveau titre qu'il a choisi de nous jouer en avant-première dans le NRV. Mohamed Lamouri, c'est à vous.
Mohamed Lamouri, le titre c'est Margoun, il m'a dit tout à l'heure que ça voulait dire le misérable. Et le groupe Mosla ce soir s'est moqué à la guitare, Charlie O au clavier, Raphaël à la basse, Baron Rétif, à la batterie. Je vous rappelle le titre de son premier album, Underground High Love. Et Mohamed Lamouri sera en concert à Bobigny le 18 octobre, ce sera avec le Couscous Clan et Rodolphe Berger, qui était avec nous lundi dernier. À Amiens le 19, Castres, au Primeur de Massy le 2 novembre, à Châtenay-Malabry et à Brest. Et la prise de son ce soir était assurée par nos souterrains Guillaume Roux et Charles Pélabon.
Merci à tous nos invités, merci Marcel Lamont. On vous retrouve au centre du documentaire « Pourquoi nous déteste-t-il, nous les vieux ?» C'est programmé à partir de demain sur Planète Plus. Pascal Bruckner, merci. Une brève éternité, merci. Philosophie de la longévité, c'est chez Grasset. Julien Moury, Odyssée, un tour du monde de la vieillesse, c'est paru chez Plon. Et enfin Marie Offray, on vous retrouvera dans Notre Temps. Merci à vous tous. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Benoît Lagan ?
C'était au seuil.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Plon.
Ah bon, et en plus écrit au seuil.
Oui.
Je perds la tête.
C'est le début.
Il me pousse vers un EHPAD. C'était le NRV, première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV La Suite, pour plus de France Inter. Mais demain, au programme, ce sera quoi?
Et elle, c'est qui?
Nos forces spéciales.
Notre révolution ne connaît aucune frontière.
Quand les femmes prennent les armes contre Daesh, gros plan sur Sœurs d'armes, le film de Caroline Fourest. On attend vos messages sur le sujet, vos questions, vos analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il est ouvert toute la journée et toute la soirée. En live, Marion, demain.
On a rendez-vous avec le folk de Botti Boll.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rouzic, Clémence Diligent et Benoît Lagan. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal pour le premier épisode de notre collection Léonard de Vinci. C'est au programme du NRV La Suite, France Inter, plus de Sfumato ce soir. A tout de suite.
Rendez-vous.